J'aimerais qu'on regarde maintenant le livre de Job. Je n'ai pas l'intention d'en faire une analyse détaillée. Ce que je voudrais, c'est prendre ce livre de Job comme exemple de la manière dont on peut extraire le message du texte et puis nous l'appliquer. Le livre de Job est probablement le plus ancien livre de la Bible, écrit par Moïse avant même le Pentateuque. Et déjà ça me dit quelque chose. Le livre de Job traite de la question de la souffrance. Et Dieu a jugé bon de mettre par écrit sa réponse au problème de la souffrance en premier lieu parmi tous les écrits bibliques. Je trouve là quelque chose, une délicatesse de la part de Dieu. Et je sais que vous êtes dans la souffrance. La première chose que je vais vous mettre par écrit, c'est comment moi je vois le problème de la souffrance. Autrement dit, Dieu répond au problème de la souffrance en premier lieu lorsqu'il s'agit d'écrire ce qu'il a à nous dire. Job est un homme qui a réellement existé. Il en est question dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 14. Il en est question dans l'épître de Jacques. Les auteurs bibliques qui y font allusion ne donnent nulle part l'impression qu'il s'agit d'un personnage mythique ou inventé. Il s'agit vraisemblablement d'un personnage de l'époque de Moïse qui a vécu une expérience particulière dans sa vie, et Moïse va donner un éclairage de l'expérience de cet homme grâce à l'inspiration qu'il va recevoir de Dieu. Il nous est dit au chapitre 1 et au verset 1 qu'il y avait dans le pays d'Uts, et on ne sait pas où c'est, un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. L'histoire commence autrement dit avec un bon chrétien, un homme droit, un homme fidèle, un homme qui fait confiance à Dieu, un homme qui a une relation avec Dieu. Il nous a expliqué ensuite que cet homme était très riche. Et à l'époque, cette richesse va se traduire en bétail. Vous voyez tout de suite déjà dans les chiffres qui sont donnés là, une intention. Déjà, il a 7 fils. Quand un homme peut avoir 7 fils, c'est le sommet de la bénédiction. 3 filles, ça suffit. Je traduis ça dans le langage de l'époque. Ensuite, il a 7 000 brebis, 3 000 chameaux, etc., etc. Vous voyez, les chiffres sont aussi dans le même sens, de traduire l'idée, on a un homme qui est droit et qui est béni par Dieu. Voilà le personnage à qui on a affaire. Et on apprend que c'est un homme qui, chaque jour, de bonne heure, va faire des sacrifices. Et il va faire des sacrifices à l'avance pour ses enfants. Parce qu'il se dit, ses enfants, il faut qu'ils soient protégés, ils vont peut-être pécher aujourd'hui, donc je vais faire des sacrifices pour eux à l'avance. C'est un homme qui a un lien avec Dieu très fort et très étroit. Une relation continue avec Dieu. Maintenant, dans les 2 premiers chapitres, on va avoir une alternance de tableaux sur la terre et dans le ciel. Et nous allons avoir, nous, la chance que Job n'a pas de voir en même temps ce qui se passe sur terre et ce qui se passe dans le ciel. Et on va pouvoir comprendre ce qui se passe sur terre parce que nous, nous pouvons voir ce qui se passe dans le ciel. Job, non. On va donc avoir une alternance de scènes sur la terre, dans le ciel, sur la terre, dans le ciel, l'une expliquant l'autre. Au verset 6, il nous est dit « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » On a donc là une vision de quelque chose qui se passe dans le ciel, auprès de Dieu. Verset 7, « L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ?» Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Remarquez ce qui se passe. Il y a dans le ciel un rassemblement des créatures de Dieu et de tous les représentants des mondes créés par Dieu. Encore une fois, comment est-ce que vous voulez comprendre ce qui se passe dans le ciel alors qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe sur la terre? Donc le langage qui est employé là est un langage réduit qui nous permet d'avoir une idée de ce qui se passe. Les détails, je ne les ai pas. Mais il y a une rencontre dans le ciel. Des créatures fidèles à Dieu. Et il nous est dit que Satan arrive avec eux. Et l'Éternel lui dit, d'où tu viens, toi? Réponse, de parcourir la terre, de m'y promener. Satan répond à l'Éternel, moi, je représente la terre. La terre, c'est chez moi. J'y fais ce que je veux. Je vais, je viens, je m'y promène. La terre est mon domaine. Le texte continue. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu répond à Satan et dit « Attends, Tu prétends être possesseur de la terre, mais tu ne seras possesseur de la terre que quand tous les êtres humains qui y sont, sont sous ta possession. Par exemple, au hasard, regarde Job. Mais Job, il est intègre et droit, il est fidèle. Comment peux-tu dire que tu es le maître de la terre quand il y a au moins un comme Job qui ne marche pas avec toi? Réponse de Satan, verset 9. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » Satan répond en disant, « Ah oui, non, mais ça c'est de la blague. Ça, c'est de la façade. » Et il va poser une question en mettant le doute. « Est-ce que tu crois que c'est vraiment sincère ce qui fait Job ?» Regarde, tu l'as béni par-dessus tout. Ben évidemment qu'il te suit, c'est sûr. Mais maintenant, enlève tout ça, puis tu vas voir ton ami Job. On va voir à ce moment-là à qui il appartient pour de vrai. Parce que si tu enlèves toutes les bénédictions que tu lui as données, tu vas voir ton ami Job. Il va te maudire en face. Ça, c'est la réponse du diable. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. C'est une manière de parler, mais je crois que Dieu a un problème. Imaginez que dans ce conflit, Dieu dise, mais non, Job est un bon gars, c'est un fidèle. Imaginez, je suis chez vous. Et puis, on discute un moment, puis vous vous absentez un moment, et puis après, je m'en vais. Et un moment après, vous découvrez qu'il vous manque le livre qui est sur la table. Mais où est-ce qu'il est mon livre? Et il y a Alice qui vous dit, ah, mais oui, j'ai vu, c'est le pasteur qui l'a pris. Je peux me défendre tout ce que je veux. La parole d'Alice aura beaucoup plus de poids que la mienne qui suis en cause. Même si elle dit quelque chose de faux ou de vrai, sa parole aura plus de poids auprès de vous que tout ce que je peux dire pour me défendre. Parce que c'est une tierce personne.
C'est un témoin.
C'est la situation où Dieu se trouve. Le diable lui dit, tu as béni Job et ton histoire c'est de la blague. L'enjeu, n'oubliez pas, c'est qui domine la terre. C'est Dieu ou c'est Satan? Comme je vous disais, nous on voit ce qui se passe dans le ciel, mais Job, lui, ne voit rien. Autrement dit, Dieu est dans une certaine mesure contraint de faire un bout de chemin avec Satan parce que ce que Dieu va dire pour se défendre n'a pas de poids. Il va falloir voir ce que Job a vraiment dans le ventre. Là se termine la partie où on a vu ce qui se passe dans le ciel. On revient sur la terre maintenant. Quand on revient sur la terre, c'est la catastrophe. Il y a des tribus qui viennent et qui volent toutes ces richesses et le dépouillent de tous ces biens. Et à partir du verset 18, il nous est dit que ses fils et ses filles étaient une fois dans une maison, ils faisaient une fête. Il y a un grand vent qui est venu et le vent a fait tomber la maison. Les enfants sont morts dans la maison qui est tombée. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, signe de deuil. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je sortirai du sein de la terre. » L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. On est là dans le tableau sur la terre, où on a les conséquences de ce qui s'est passé dans le ciel. Le diable arrive, il enlève toutes ses richesses et lui enlève sa famille. Job, lui, est frappé terriblement, il porte le deuil et il va dire quelque chose de bizarre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous voyez quelle résignation il a? Maintenant, est-ce que cette parole de Job est juste? Finalement, derrière les peuplades qui viennent le dérober, derrière le vent qui fait tomber la maison, il y a Satan.
Mais
Dieu a permis. On a là l'image, d'une expression que j'ai entendue il y a très longtemps et que j'aime bien, le diable n'est jamais qu'un chien qui ne peut aller que jusqu'au bout de sa laisse. Et c'est Dieu qui tient l'autre côté et qui lui donne la mesure.
Cette histoire-là qui est vraie, peut-elle être appliquée avec tout ce qui se vit aujourd'hui?
Dieu a pris la peine de nous faire comprendre l'histoire de Job, parce qu'au travers de cette histoire-là, nous avons besoin de comprendre plusieurs choses. Une des premières choses que nous avons besoin de comprendre, c'est qu'il y a, dans l'univers où nous sommes, un grand conflit dont nous ne sommes pas témoins pleinement parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le ciel comme le texte nous permet de le faire, mais nous sommes dans un grand conflit cosmique entre Christ et Satan. On est dans Job, le premier livre de la Bible, dans le temps. Si vous prenez le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 12, vous retrouvez exactement la même chose. Tout le livre que nous avons en main devient entre nos mains un manuel que Dieu nous donne pour survivre au grand conflit dans lequel nous sommes. Apocalypse chapitre 12. Quelqu'un voudrait nous lire le verset 7 à 9.
Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
Depuis Job jusqu'à l'Apocalypse, on est dans un grand conflit. Un conflit entre Christ et Satan. Maintenant, vous remarquez que ce que dit Job n'est pas juste. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Non, parce que le texte nous fait comprendre que ce n'est pas l'Éternel qui a ôté. C'est le diable qui a ôté. Et dans la suite du texte, ça sera encore plus clair. Si Dieu le permet, c'est parce que, et on le verra plus tard en avançant dans notre texte, c'est parce que, étant participants de ce grand conflit, nous avons aussi un rôle à jouer dedans. Alors, on a vu une scène sur la terre, Job. On a vu une scène dans le ciel, Satan, conflit. On a vu une scène sur la terre, dévastation pour la famille et les richesses de Job. Et le texte se termine là en disant, au chapitre 1, verset 22, « En tout cela, Job ne pécha point. » Autrement dit, Job reste fidèle. On peut déjà prévoir la suite. Vous vous souvenez, le diable avait dit, « Ah oui, mais je te dis, je suis sûr que si tu enlèves tout ce qu'il a, si tu lui voles son compte en banque, si tu le mets en banqueroute, si tu prends toutes ses affaires, il va t'envoyer promener. » Le texte déjà nous donne la réponse, « Non. » Job reste fidèle. Maintenant, on va remonter dans le ciel, parce que ça continue. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Même scénario. Et Satan vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Chapitre 2, verset 1. L'Éternel dit, Satan, d'où viens-tu? Satan lui répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de lui promener. La même chose. Satan vient, et l'Éternel lui dit, mais de quel droit? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais moi, je suis patron de la terre. Sur la terre, je fais ce que je veux. Et Dieu lui dit, attends un petit peu. Verset 3. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu fait le bilan et lui dit, dis donc, tu m'avais dit l'autre fois que si on enlevait tout ce qui est à lui, il me maudirait. Moi, j'ai rien touché, mais tu as tout enlevé. T'as enlevé ses biens et tu lui as enlevé sa famille. Regarde, il est fidèle. T'as perdu, mon ami. Job, c'est un vrai. C'est pas un faux. C'est un vrai. Parce que dans l'épreuve, Job reste fidèle. Job reste droit. Verset 4. Satan lui répondit. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors le diable continue. Oui, mais bon. Là, on n'a touché qu'à des choses autour de lui. C'est les biens matériels. Hein. Mais là, on n'a pas encore touché à lui. Si tu touches à lui, là, tu vas voir. Tu peux être sûr que tu vas voir le fond de la personne. Verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Je prends l'exemple d'un adolescent avec sa mère ou son père. Et il lui dit un jour, cet adolescent dit un jour à sa mère ou à son père, « Ce soir, je vais avec telle personne en boîte faire ceci et ça. » Son père, sa mère lui dit, « Écoute, non, je regrette, mais tu n'as pas aller là. Écoute, hein, moi j'ai 15 ans, je fais ce que je veux. Que fait le père? Il prend une corde, il le lie, il l'enferme dans sa chambre, il ferme la porte, à clé. Ou il travaille avec lui pour essayer qu'il n'y aille pas. Qu'est-ce qu'il fait? Le jeune ne veut rien savoir. Je vais là, puis c'est tout. Point. Et il s'en va. Que fait le père? Il sort son fusil et il tire pour pas qu'il y aille?
Il va essayer de le convaincre avant.
C'est la situation qu'on a. L'humanité entière s'est retrouvée prise dans cette situation qu'on appelle le péché et qui a donné autorité au diable dans sa vie et dans le monde. Jardin d'Éden. Raison pour laquelle la parole de Dieu appelle le diable le prince de ce monde, pas le roi. Disant par là qu'il a une domination, celle que nous lui avons accordée en tant que race humaine, en obéissant au diable plutôt qu'en obéissant à Dieu, en choisissant lui comme maître plutôt que Dieu. Si l'humanité choisit le diable comme maître, il va régner sur nous. Et il va dire, voilà, ces gens-là, ils sont à moi. Et Dieu dit, non. Parce que je les ai créés, et parce que dans le paquet, il y en a qui ne te suivent pas, bien qu'ils soient encore dans ton royaume pour le moment.
Je peux-tu pousser ton exemple plus loin? Mettons que le jeune en question a une gang d'amis qui pensent que le père est un père dictateur et dominateur et dictateur. Puis qui ne connaissent pas exactement c'est quoi que le fils veut faire, mais ils se disent qu'il devrait avoir la liberté de le faire parce qu'il a 15 ans puis il peut choisir ce qu'il veut. Si le père dit non, puis qu'il l'enferme, puis qu'il barre à clé ou bien qu'il tire, comme tu dis, avec un fusil, il va avoir l'air de donner raison à son fils qui dit « Mon père, c'est un homme qui ne me laisse pas vivre. » Même si le père voulait le protéger d'un grand mal. Tous ses amis autour vont dire « Il avait raison, hein? Lui, c'est un dictateur. Si Dieu, il s'occupe pas de Satan, puis qu'il fait à sa tête, les autres mondes, puis les autres qui viennent, parce que on a dans ce texte-là la preuve qu'on n'est pas les seuls qui ont été créés dans l'univers, ben, eux autres, ils vont dire, ben, peut-être finalement que Satan, il a raison, puis que Dieu, il fait à sa tête, puis que finalement, c'est un dictateur.
C'est exactement ça. Mais c'est une situation dans laquelle le Père, qui va respecter la liberté de ses créatures, va prendre le long chemin, non pas pour les obliger à faire ce qu'ils pensent être bien, mais pour qu'ils comprennent quel est l'amour du Père quand il leur dit « Faites ça, et pas ça. » Alors, l'histoire continue, et l'Éternel dit à Satan « Je te le livre, seulement épargne sa vie. » La laisse du chien va un petit peu plus loin. Alors maintenant, je vais vous relire ces deux versets l'un derrière l'autre, et vous allez voir tout de suite le message. Je lis dans Job 2, verset 5. « Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. On quitte le scénario dans le ciel, on retombe violemment sur la terre, où Job subit tout de suite la conséquence de l'attaque du diable, pas dans ses possessions parce qu'elles sont déjà toutes liquidées, mais sur lui. Il frappa Job d'un ulcère malin de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. On peut retrouver des exemples contemporains de ça. Je vous donne un scénario inventé, mais vous verrez combien il peut être réaliste. Une famille, le père, la mère et deux enfants. Le papa travaille et les enfants sont en vacances. Donc la maman part avec les enfants en vacances. Le père va projeter de les rejoindre un peu plus tard. Ils partent en vacances, et puis pendant le voyage, la voiture est prise entre deux camions, pas s'arrêter, et puis craque. La police appelle, dit « Écoutez, monsieur, voilà. » Alors il arrive sur place, et un jour ou deux après, il est dans une église avec trois boîtes devant lui. Il est seul. Cet homme est dévasté, il rentre chez lui, tombe en dépression, et il est malade, il doit se soigner parce que c'était trop pour lui. Et un jour, il part de sa maison, il dit, je vais prendre une marche. Prends une marche. Puis quand il revient, il voit de l'agitation dans son quartier. Il n'avait pas les esprits en place, il a laissé une casserole sur le feu, la maison a pris feu. Il rentre, et c'est devant sa maison que sont les pompiers. Cet homme est dévasté. Et puis, comme il est mal, il va voir le médecin, et puis il fait des examens, et puis le médecin le rappelle, comme les médecins font. Écoutez, vous pourriez passer à mon cabinet, s'il vous plaît? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben écoutez, est-ce que vous avez un moment aujourd'hui? Ben venez chez moi. Et le médecin lui dit, asseyez-vous. Écoutez, on a regardé vos examens, il semble que vous ayez un cancer. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, ma maison est par terre et vous me dites maintenant que j'ai le cancer? Ce que je vous raconte, c'est un scénario tout à fait factice, mais qui pourrait très bien arriver dans le monde d'aujourd'hui. Et il va poser la question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que? Et on va poser la question à qui? Au bon Dieu. Il n'y en a pas un qui va dire, qu'est-ce que je lui ai fait au diable pour qu'il m'embête comme ça? Job est un croyant qui est frappé par des épreuves particulières. Parce que Job, comme nous tous, sommes participants d'un grand conflit dont on parlait tout à l'heure. Donc nous participons à la misère humaine comme tout le monde. Mais il se peut que nous soyons, en tant que croyants, parce que c'est un croyant, l'objet d'attaques particulières pour lesquelles on va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ?» Et le livre de Job essaie de nous faire comprendre. Maintenant qu'on sait ce qui se passe dans le grand conflit au-dessus de notre tête, on a une perspective différente sur ce qui se passe dans notre existence personnelle en tant que croyant. Et je ne parle pas des petites misères quotidiennes qui sont celles propres de l'humanité. Je parle des épreuves qui nous sont infligées parce qu'il y a derrière quelque chose de particulier et le livre de Job nous révèle ce que c'est. Le livre de Job ne nous donne pas une solution au problème du mal et de la souffrance. Le livre de Job nous permet de regarder le problème du mal et de la souffrance depuis la place de Dieu, avec les lunettes de Dieu. Et ça nous donne une perspective tout à fait différente de la vision humaine de la chose. Même si je n'ai pas, en lisant le livre de Job, la réponse à toutes mes questions sur ce problème de la souffrance, j'ai suffisamment de compréhension par rapport au grand panorama que Dieu voit pour savoir où je me place là-dedans et avoir une espérance qui est fondée sur les Écritures et non pas sur mon imagination. Chapitre 2, verset 9, verset 8, chapitre 2, verset 8, Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Elle est en train de lui dire exactement ce que le diable veut qu'il fasse. Réponse, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce que le texte biblique que nous avons nous permet de savoir si cette phrase de Job est juste ou non?
Mais ça nous permet de savoir que c'est pas juste.
Ça nous permet de savoir que c'est faux. Parce que ce n'est pas Dieu qui, c'est Satan. C'est la deuxième grande leçon que le livre de Job nous enseigne, le mal, les épreuves, la souffrance ne vient pas de Dieu. J'aimerais bien regarder avec vous comment Job vit ça, parce que la façon dont il le vit est extrêmement semblable à la manière dont nous le vivons. Regardez par exemple au chapitre 3. C'est juste quelques exemples. Vous êtes conscient que dans la manière dont le livre de Job est écrit, c'est écrit à l'oriental, c'est-à-dire beaucoup de palabres. On a de grands discours, on essaie de sortir l'essentiel. Quelques versets parfois suffisent pour avoir le sens. Chapitre 3, est-ce que quelqu'un voudrait nous lire le verset 11, 12, 13?
Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter? Maintenant, je serai couché tranquille, je dormirai en ce moment.
Job est en train de dire, pourquoi? Pourquoi, pourquoi? Ça, c'est ce qu'on dit quand la souffrance nous frappe. Pourquoi, pourquoi? Job est vraiment un homme comme nous. Regardez le chapitre 7, les versets 19 à 21, s'il vous plaît.
Quand cesserais-tu d'avoir un regard sur moi? Quand me laisserais-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus.
Vous voyez que Job, ici, est en train de réagir de la même manière que nous réagissons, nous, quand on est confronté à la souffrance. Job est un homme qui souffre et qui souffre profondément. le chrétien qui est confronté à l'épreuve va souffrir, lui aussi. Ce n'est pas parce qu'il est croyant qu'il ne va pas souffrir. Il va souffrir comme les autres. Mais il est équipé pour avoir des ressources différentes que les autres n'ont pas. Et je crois qu'en regardant le livre de Job, on peut avoir les ressources pour comprendre comment traverser la souffrance, qui est aussi forte pour nous, croyants, que pour n'importe qui d'autre. Voilà comment Job réagit à la souffrance. Maintenant, dans le chapitre 2, à la fin du chapitre 2, on apprend que Job a des amis. Quand on a des amis comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis. Là encore, ces trois amis vont faire des longs discours, des longues palabres, pour lui dire une chose finalement extrêmement simple. Regardez rapidement avec moi trois ou quatre textes qui dénotent ce que ces gens ont à dire. Job 4, versets 6 à 9.
Puisque tu as été un fidèle de Dieu, et puisque ta conduite a été exemplaire, ne dois-tu pas garder confiance et bon espoir? Réfléchis, as-tu vu déjà des innocents ou des hommes, des bonnes gens, des honnêtes gens succomber au malheur? Je l'ai bien dit, remarque, cultiver l'injustice ou semer la misère conduit à récolter injustice et misère.
Ici, on a Eliphaz qui parle et qui lui dit, écoute, regarde dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Autrement dit, c'est aussi simple que ça. Celui qui fait le bien est béni, celui qui fait le mal est maudit. Tu as hérité d'une malédiction, c'est que tu as péché, c'est que tu as fait des bêtises, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Chapitre 11, verset 13. 13 à 16.
Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu t'éloignes, si tu éloignes loin l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de taches, tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras pas plus que l'eau qui s'est écoulée.
Repens-toi, arrête de faire le mal, arrête de te vautrer dans le péché, puis tout ira bien, c'est ce qu'ils disent. Chapitre 22, donc je prends des passages dans les discours des amis pour vous donner une idée de ce qu'ils disent. Chapitre 22, versets 3 à 6.
Cela fait-il particulièrement plaisir au Tout-Puissant que tu sois juste? Si tu es intègre dans ta conduite, qui gagne-t-il? Est-ce à cause de ta piété qu'il te corrige, qu'il entre en jugement avec toi? N'as-tu pas fait beaucoup de mal? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite?
Ça, c'est le discours des amis de Job qui est très clair. Si tu as le mal qui arrive dans ta vie, c'est que tu le mérites. Si tu as des bénédictions, c'est que tu les mérites. C'est aussi simple que ça. Voilà l'attitude des amis de Job. Et ses amis sont venus pour le réconforter, pour essayer de l'orienter vers une solution. Arrête de faire le mal, repens-toi, remets-toi en ordre avec Dieu, et à ce moment-là, il pourra de nouveau te bénir. Maintenant, regardez ce que Dieu dit des discours de ses amis. Dernier chapitre, dans Job 42, Dieu dit ce qu'il pense de ses amis. Job 42, verset 7.
Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Eliphaz et Théman. Il lui dit, « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. »
Merci. Et il lui propose de faire des sacrifices pour que leur péché soit pardonné et de demander à Job d'intercéder pour eux. Donc, les discours des amis de Job ne sont pas appropriés. Ils ne représentent pas ce que Dieu enseigne, mais ils représentent ce que les êtres humains conçoivent. Ça, c'est une histoire qui traverse le temps. Regardez maintenant dans Luc chapitre 13. Vous allez tout de suite voir le lien avec ce qu'on fait. Luc 13, verset 1.
À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils le offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez. » Rappelez-vous, 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elle. Croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous.
Merci. Jésus est confronté dans son temps à la même mentalité. Des gens qui sont en prière se font massacrer par les Romains. Et disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme grand péché pour être tués alors même qu'ils font leur prière? Une vieille tour dans la ville s'effondre, tue 18 personnes. Et les Juifs disent, ah, ces gens-là, ils ont commis des affaires épouvantables. Vous vous rendez compte, le jugement que Dieu fait tomber sur eux? Et Jésus leur dit, mais vous n'y êtes pas. Ils n'étaient pas plus grands pécheurs que vous. Au bout du compte, ce qui serait important, c'est votre repentance. Vous êtes aussi mal parti qu'eux si vous ne vous repentez pas. Donc Jésus dément cette idée et dit, la malédiction qui semble tomber sur vous n'est pas la conséquence directe, nécessaire, d'un mal que vous avez fait. La bénédiction que vous avez n'est pas nécessairement la conséquence directe du tout le bien que vous avez fait. Ça ne marche pas comme ça. Les amis de Job n'ont pas compris les choses selon la perspective divine. Et Job va réagir. Regardez dans Job 6 comment il réagit à ça. Job, lui, comprend les choses d'une manière beaucoup plus juste. Job 6, versets 24 à 26.
Instruisez-moi plutôt, je suis prêt à me taire. Expliquez-moi en quoi j'ai dit quelque sottise. Les arguments honnêtes ne blessent personne. Mais que peuvent valoir vos sévères reproches? Songez-vous donc à critiquer de simples mots? Ce sont des mots en l'air d'un homme sans espoir.
Merci. Job est en train de réagir et leur dit, dans ma version, il dit, « Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. » Il n'accepte pas leur philosophie selon laquelle si le malheur te tombe dessus, c'est parce que tu as péché. Si le bonheur te tombe dessus, c'est parce que tu as fait le bien. Il n'accepte pas cette philosophie raccourcie et simpliste. Un peu plus loin, dans Job au chapitre 16, il dit ceci, Job 16, 2 à 4.
J'ai entendu beaucoup de propos semblables. Vous êtes tous des consolateurs pénibles. Quand finiront ces discours qui ne sont que du vent? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. J'alignerais les discours contre vous, je hocherais la tête sur vous. Je vous fortifierai par mes paroles, le mouvement de mes lèvres vous apporterait du soulagement.
Voilà, Job est en train de dire, on échange de place. Vous êtes, me dit mon texte, des consolateurs fâcheux. Et il les confronte à leur propre discours. Vous dites que j'ai mal fait, et dites-moi où alors. Donc voilà comment Job se positionne. Dans la partie qu'on a vue aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui nous sont enseignées par le livre de Job. Numéro 1. Nous sommes pris dans un grand conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Nous sommes impliqués dans ce conflit. Nous avons une part à jouer dans ce conflit. Deuxièmement, le mal ne vient pas de Dieu. Aucun mal ne vient de Dieu. Mais nous vivons dans un monde qui a ouvert sa porte à l'ennemi. Et par conséquent, les lois de l'ennemi régissent notre vie et nous subissons tous les conséquences du mal, du péché, du prince des ténèbres. Dans le conflit, il y a des attaques, il y a des problèmes qui surgissent, des épreuves graves qui arrivent. Derrière ces épreuves, il y a le conflit qu'on a vu dans le ciel, dans lequel nous avons un rôle et pour lequel Dieu a choisi la voie longue pour faire la preuve devant l'univers entier de son amour et de sa justice. Le diable en doute, les hommes en doutent, les anges aussi. Il y a donc un grand conflit qui ne se limite pas à la terre, mais qui est un conflit dans l'univers entier. La prochaine fois, ce que je vais regarder avec vous, c'est comment Job va réagir face à Dieu, et puis on va voir comment Dieu lui répond. Et dans la réponse de Dieu, on va entendre la description de la perspective divine par rapport à la souffrance. La réponse que Dieu donne à Job le prend par surprise, il s'y attend absolument pas. La réponse que Dieu donne à la souffrance va nous prendre aussi par surprise, parce que ce n'est pas la réponse à laquelle on s'attend. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'avoir inspiré le livre de Job pour nous faire comprendre une perspective bien plus grande que celle que nous pouvons voir avec nos yeux, pour nous faire comprendre à quel point nous sommes dans un énorme combat. Et tu nous invites à prendre part de ton côté. Tu as déjà depuis longtemps pris part de notre côté. mais nous ne l'avons pas compris, nous ne l'avons pas voulu. Et nous te demandons, Seigneur, en étudiant ta parole, de nous apprendre à voir ton amour, ta grandeur, au travers de ce que nous comprenons et au travers de ce que nous ne comprenons pas. Mais nous comprenons une chose, c'est que tu as été jusqu'à donner ta vie en Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés. Alors que nous allons avancer dans l'étude de ta parole, donne-nous de découvrir tout l'amour de celui qui est venu pour nous donner la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.